cette conférence. Donc, la problématique, c'est donc le transport de malades assis par les taxis, un sujet qui est tout à fait d'actualité, et nous avons ici une représentation qui va pouvoir, je l'espère, et je n'en doute absolument pas, répondre à toutes les questions que tout le monde se pose, et en tout cas pouvoir faire un point sur ces situations. Alors, un petit constat très rapide pour repréciser pourquoi le salon du taxi a choisi ce thème, notamment. On a une population française qui a augmenté, je ne serai pas très long, hein, je vous rassure tout de suite, mais quelques chiffres, qui a augmenté de 14% entre 1990 et 2009, étant précisé que sur la même période, les plus de 65 ans, c'est une population qui, elle, a cru de 36%. Donc, depuis 1998, effectivement, la dépense pour le transport des malades assis a connu une croissance annuelle qui varie de 5 à 10%. Cet état de fait a fortement impacté les finances publiques, sujet d'actualité, au premier rang desquels, bien sûr, les dépenses de la sécurité sociale, et le tout dans un contexte économique de crise généralisée. C'est la raison pour laquelle, donc, dans un souci de meilleure maîtrise de ces dépenses de santé, la loi de programmation budgétaire consacrée au financement de la sécurité sociale, en son article, fameux article 44, a prévu un recours systématique à une procédure d'appel d'offres pour ce type de transport. Donc une vision, je dirais, qui peut se comprendre d'un point de vue de stricte gestion, mais qui effectivement pose un certain nombre de problèmes, et même des problèmes certains, dans l'application, notamment vis-à-vis de votre profession. Donc, le but de cette conférence est de répondre à la question de savoir comment faire, si cette mesure est viable pour le taxi, et des nécessités donc d'examiner les conséquences pratiques qui vont impacter les conditions d'exploitation, notamment en province où cette activité peut représenter jusqu'à 80% du chiffre d'affaires d'un taxi, c'est donc dire l'enjeu qui est de taille. Tout le monde s'accorde à dire que les taxis, ce sont des artisans individuels à 85%. Ils ne sont pas aujourd'hui structurés pour répondre dans les formes requises par cette procédure d'appel d'offres. Donc, cette procédure, et c'est là toute la problématique, risque d'entraîner un transfert de chiffre d'affaires sur de grosses structures telles que Veolia Transdev, qui ont déjà élaboré des offres dans ce sens. Des réunions avec les pouvoirs publics et les représentants des différentes organisations professionnelles des taxis ont eu lieu en janvier. La dernière d'entre elles, le 1er février, a débouché sur un refus de la part de l'ensemble des fédérations d'envisager une expérimentation de la procédure d'appel d'offres. Par ailleurs, il existe un processus de négociation en cours qui prévoit l'élaboration d'une convention nationale avec pour objectif de la voir aboutir d'ici la fin 2013, sachant que la CNAMTS constitue l'interlocuteur privilégié des représentants des taxis dans le cadre de cet objectif de convention nationale. Ceci étant précisé, et j'en ai terminé pour cette petite introduction, mais qui permet de poser le débat dans ses principales dimensions, nous avons plaisir d'accueillir comme intervenants à cette tribune les principaux acteurs que je viens d'énoncer, dont la parfaite connaissance des enjeux, bien sûr, va nous permettre de répondre aux interrogations légitimes qui sont les vôtres, en triant ce qui est fondé de ce qui ne l'est pas, en coupant court aux rumeurs, afin que chacun d'entre vous puisse ressortir de cette conférence avec des informations objectivées et une idée de ce qui reste à faire dans le cadre de cette négociation. Donc, permettez-moi de vous présenter les intervenants à cette tribune. Pour éviter tout problème de préséance, je vais les présenter dans l'ordre alphabétique de leur organisation. Et ça tombe très bien, puisque nous allons commencer par Madame Claire Martret, donc de la CNAMTS, qui est sous-directeur à la CNAMTS, et qui est parfaitement au courant et qui suit ses affaires, je pourrais dire, de façon quotidienne, notamment dans le cadre de la problématique de la Convention nationale. Nous avons également parmi vous le docteur Morvan Zigvar, qui est médecin directrice du projet transport et qui donc fait partie également de la CNAMTS, et qui dans un deuxième temps, on gardera un petit peu de temps à la fin de cette conférence, se propose de vous présenter donc l'outil PEC Plus, élaboré par la CNAM et dont la finalité, a priori, permet de répondre à une demande des principales fédération de taxis en matière de dématérialisation et d'accès aux informations. Donc un aspect tout à fait pratique qui nous a semblé intéressant d'introduire en conclusion de cette conférence. Pour vos représentants, donc par ordre alphabétique toujours, Monsieur Gérard Gabet, de la FFTP, Fédération Française des Taxis de Province, président de la FFTP. Monsieur Jean-Claude Richard, président de la FNAT, Fédération Nationale des Artisans du Taxi. Nous avons également de la FNAT en présence, qui pourra éventuellement intervenir, Madame Nadine Annette, qui est vice-présidente de la FNAT et présidente de la FNAT de Lyon. Nous avons Monsieur Frédéric Guenou, donc vice-président de la FNDT, donc ici à la tribune, et en salle Monsieur Didier Aubrel qui est président donc de la FNDT. Monsieur Wilder est absent et il est très très bien représenté par Monsieur Christophe Laveau qui est vice-président de la FNTI, donc Fédération Nationale des Taxis Indépendants. Et enfin Monsieur Alain Griset qui est président de l'UNT, l'Union Nationale des Taxis. Donc moi je vais m'arrêter de parler maintenant, mais pour lancer le débat, pardon, excusez-moi monsieur, je propose que chaque fédération, finalement, puisque le 1er février c'est très récent, apporte un éventuel commentaire et un complément d'information à ce que je viens d'essayer de résumer rapidement sur la situation, et puis puisse préciser sa position par rapport justement à la situation dans laquelle nous sommes, vous êtes, et à la façon dont on peut envisager l'avenir. Dans un deuxième temps, je passerai ensuite la parole à Madame Martret de la CNAM, qui, j'en suis sûr, a des choses à dire, notamment au sujet de la Convention nationale. En considération du nombre d'intervenants, et petite règle, vous savez, comme avant les matchs de boxe, où on rappelle qu'il ne faut pas frapper en dessous de la ceinture, etc. Bon, je plaisante, mais comme vous êtes très nombreux, je vous remercie d'avance d'être aussi synthétique que possible dans l'expression, de façon à ce que chaque représentant puisse avoir un temps de parole et puisse exprimer son avis et sa position, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà. Et donc, bien évidemment, ça va de soi, je le rappelle juste pour mémoire, on peut tout dire dans un débat, mais surtout sur des sujets sensibles, pour être efficace, il est quand même important que l'expression reste nuancée, respecte la pensée des autres, et ça dans l'intérêt de tous et principalement de ceux qui nous écoutent. Voilà, je vous remercie, je n'ai pas de... Est-ce que quelqu'un a la... volonté de commencer, je serai naturellement tenté de commencer par la première personne qui est la plus proche de moi, Monsieur Richard, et puis ensuite on défilera tout au long de la table et on passera en dernier lieu la parole à Madame Martret. Monsieur Richard, je vous en prie.
Oui, ça marche là, non? Non, mais eh bien, merci de me laisser la parole. Je crois.
Ok. Bon, merci de me laisser la parole. Je crois que, je vais être très simple, hein, très succinct, je crois que l'ampleur de la manifestation du 10 janvier répondait à l'appel d'offres lancé par le gouvernement. Cette manifestation, d'une ampleur supérieure à la manifestation contre le rapport Attali, disait simplement, dans tous les manifestants, nous ne voulons pas d'appel d'offres. C'est pas que les taxis voulaient négocier telle part ou telle part des appels d'offres. Les taxis ne veulent pas d'appels d'offres. Par contre, bien entendu, les taxis sont prêts, lors de la négociation de la prochaine convention, de faire des efforts si c'est nécessaire. Mais surtout, l'appel d'offres mettrait totalement en péril, on l'a situé à peu près autour de 15 000 entreprises. Bien entendu, ça n'est pas négociable. Et nous l'avons rappelé le 1er février au ministère de la Santé, puisque nous ne sommes pas tombés d'accord. Eux, déjà, ils étaient dans le travail des appels d'offres. Nos mandants nous ont dit, nous ne voulons pas d'appels d'offres. Par contre, nous sommes tout à fait disposés à travailler sérieusement lors de la négociation de la prochaine convention sur des pistes pour éventuellement faire diminuer le coût. Un coût qui est important, mais un coût qui n'est pas exagéré, parce que les prescripteurs, ce ne sont pas nous. Nous ne faisons qu'exécuter les prescriptions données par les médecins. Et si les prescriptions augmentent ou si le coût augmente, ça n'est pas de la faute des taxis. On le verra, le vieillissement de la population, les délocalisations, ainsi de suite. Donc, en aucun cas, je résume, ce ne sont pas les taxis qui sont maîtres de l'œuvre, ce sont les prescripteurs, c'est-à-dire les médecins. Nous, nous répondons aux prescriptions données par les médecins. Nous sommes prêts à travailler sérieusement, mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, nous n'accepterons de négocier, de travailler sur les appels d'offres. Vous m'entendez ? Voilà. Oui, vous m'entendez.
Donc, merci à vous toutes et tous d'être venus. Et je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit mon collègue à côté. Nous avons comme mot d'ordre, c'est de ne pas accepter ces appels d'offres parce que ça mettrait en péril effectivement toutes nos sociétés de taxi, hein, que nous ayons un auto-taxi dans les grandes ou petites communes. On est sorti le 19 décembre et le 10 janvier uniquement contre l'appel d'offres. Et on leur a bien dit qu'on comprenait la situation parce qu'ils voulaient faire des économies. On veut bien faire des économies, mais il ne faut pas tailler dans les taxis encore une fois. Hein, toujours les taxis. Donc, soi-disant qu'ils nous avaient compris. Donc, c'est pour ça qu'on a écourté les négociations le 1er février. Parce que quand nous sommes sortis le 10 janvier, il était au programme de deux départements à laisser dans la France. Ils se disaient Poitiers et Besançon, je crois, de mémoire. Et lorsqu'on était à la table des négociations, comme nous ont si bien dit qu'ils nous avaient compris le 10 janvier, au lieu de refaire marche en arrière, eh bien, ils sont passés de 2 à 4 départements à laisser. Et bien entendu, comme vous le savez, qui vient de le dire à l'instant, on n'en veut pas, vous n'en voulez pas, et on ne signera pas les appels d'offres. Parce que ne serait-ce qu'au départ, au niveau de l'appel à candidature, un taxi ne pourra pas répondre, même si on se fédère. Dans certaines grandes villes, on pourra répondre une moitié pour essayer de faire du travail. Mais on ne veut pas essayer. C'est franc, on ne veut pas essayer. Il y a les petites et les grandes communes, on ne pourra pas travailler, donc on n'en veut pas. On est prêt à faire des économies. Vous tous présents ici, nous, on est d'accord avec vous, mais pas d'appel d'offres. Voilà.
Je passe la parole maintenant à Monsieur Christophe Lavo, qui est vice-président de la FNTI.
Non,
il
n'y a pas cette fille. Ouais, on n'entend pas très bien nous d'ici. Hein.
Vous m'entendez aussi ? Ça résonne. Je vais simplement vous répéter ce que viennent de dire mes deux collègues. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter les appels d'offres tels que nous propose le gouvernement parce que le monde du taxi n'est pas prêt à répondre à de tels appels parce que nous sommes des artisans et nous ne sommes pas des grosses entreprises avec des grosses structures, des centrales d'appels et nous ne pouvons chaque jour traiter un nombre d'appels supérieur à ce que nous pouvons faire. Le fait de passer par des appels d'offres veut dire qu'à terme, la plupart de nos entreprises rurales vont disparaître et simplement certains taxis qui sont adhérents à des centrales gérées qui auront pu répondre à des appels d'offres pourront continuer à travailler. Il est donc hors de question pour notre fédération aussi d'accepter les appels d'offres et il est hors de question de continuer à négocier avec le gouvernement s'il continue sur ce trajet. Notre fédération est pour la renégociation immédiate de la convention avec la CNAM et nous avons d'ailleurs envoyé vendredi un courrier à la CNAM pour leur demander une négociation rapide. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que de toute façon tout a été dit par mes deux collègues et il faut que vous soyez derrière vos fédérations, il faut que vous fassiez remonter vos idées parce que la base a de nombreuses idées. Hélas, dans toutes les fédérations, on peut constater une chose, c'est que les idées ne nous remontent pas assez. Donc, vous êtes un élément important de la future négociation et nous attendons vos idées très rapidement afin de pouvoir proposer un projet à la CNAM qui soit réellement apporteur d'économie pour la sécurité sociale.
Merci, Monsieur Lavaux. Donc, à bon entendeur sur les remontées d'informations, je passe la parole à Monsieur Griset, donc, qui représente l'Union nationale des taxis en tant que président.
Bonjour, messieurs, dames. Tout d'abord, revenir en quelques mots sur vos propos d'introduction, monsieur. Vous avez indiqué que le coût des transports avait augmenté, ce qui est réel. Vous avez dit que c'était un problème. Je ne partage pas votre point de vue parce que si le coût du transport a augmenté, il a permis de faire des économies au niveau de la gestion des hôpitaux, par exemple. Si le coût du transport augmente, c'est parce que le lieu de soins s'est éloigné et que par conséquent, la Sécu a pu gagner dans la gestion des hôpitaux pour ensuite, naturellement, payer un peu plus en transport. Et donc, il faut faire l'équilibre entre le gain fait d'un côté et le surcoût de l'autre. Et nous, nous considérons que le surcoût est moins important que le gain qui a été fait par la Caisse de Sécurité Sociale. Deuxième chose, s'il y a un surcoût, c'est parce que si l'État lui-même a augmenté la TVA, qui naturellement a augmenté la dépense de la Caisse d'assurance maladie. Et puis s'il y a un surcoût au niveau du transport, c'est parce qu'il y a une population qu'on souhaite maintenir à domicile. Les personnes âgées coûtent moins cher à domicile que d'être dans des lieux de soins qui coûtent beaucoup plus cher à la Sécu. Donc, pour aborder ce sujet sereinement, il faut que la Caisse nationale d'assurance maladie fasse l'effort de faire l'équilibre entre l'économie qu'elle fait grâce au transport et le coût supplémentaire du transport. Ça, c'est le point de départ et on ne peut pas négocier dans de bonnes conditions si on ne part pas sur la bonne équation. Au-delà de cette précision, il est évident que l'Union nationale des taxis s'oppose à la plus grande énergie avec l'ensemble de ses membres aux appels d'offres et le 1er février, lors de la négociation, nous l'avons réaffirmé. Même si nous avons souhaité, au cours de cette journée, faire des propositions, puisque la négociation a pour objet également faire des propositions, et que nous les avons faites, et en votre nom à tous, mesdames et messieurs, nous ferons avec nos collègues tout ce qu'il faut pour que les appels d'offres, naturellement, ne puissent être appliqués, parce que, d'abord, ils ne répondent pas à la demande de la clientèle, qui a besoin d'avoir en face des professionnels qui sont qualifiés, qu'ils connaissent de proximité et qui ne répondent pas à la volonté non seulement des taxis, mais des patients.
Merci, M. Bulvaux. Merci pour cette précision. Quand je parlais d'augmentation, c'était plus un pur constat comptable d'une ligne budgétaire. Mais vous avez très bien fait de recadrer ça dans un contexte plus général, au-delà donc d'un simple aspect gestion. Monsieur Gallet. Donc, pour la Fédération française des taxis de province.
Un, deux, vous m'entendez. Alors, effectivement, par rapport à ce que mon collègue Alain Griset a dit, c'est vrai qu'il faut partir sur une équation connue, notamment l'augmentation des dépenses. Donc, on sait qu'il y a eu, lié au vieillissement, une augmentation du nombre de malades. Ça, c'est très clair. On sait qu'il y a eu un transfert lié au maintien, on a favorisé les hospitalisations ambulatoires par rapport aux hospitalisations classiques. On a donc augmenté de ce fait le nombre des transports. Là, on a gagné, il y a eu un gain important sur le montant des hospitalisations. Et effectivement, ça a eu un impact sur le côté transport. On sait aussi que les 1,5% de TVA ont impacté ce budget, comme l'ont rappelé mes collègues. Donc il est vrai que, quelque part, nous ne sommes pas les prescripteurs. Les prescripteurs ont une demande de plus en plus importante. Je crois que je le rappelais récemment, plus de 1092 cas de cancer détectés chaque jour. Donc ça vous donne une idée du nombre de personnes à transporter en radiothérapie, en chimiothérapie, domaine oncologie, donc qui est le principal de nos patients, enfin ou clients si vous souhaitez. Alors l'appel d'offres, il est venu comment? On a été auditionné en mars de l'année précédente par la Cour des comptes pour voir un petit peu à quoi étaient dues les augmentations du budget transport. Et par la suite, on s'attendait à avoir, nous l'avions espéré, une rencontre pour pouvoir faire évoluer la situation, en discuter. Au lieu de cela, la commission parlementaire a présenté l'article 38 en lecture à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2013 et sans que nous ayons été informés, a priori, aucune des organisations professionnelles n'ont été informées. Et de là, on a été obligé de faire un travail par rapport aux parlementaires et aux sénateurs derrière, mais nous n'avons pas réussi à convaincre. Donc, de ce fait, par la suite, nous avons essayé de nous faire ouvrir les portes, mais nous avons été obligés de vous demander de descendre dans la rue pour expliquer que, eh bien, nous étions contre ce projet. Alors, pourquoi, très clairement? Aujourd'hui, les appels d'offres, vous le savez, ils ne seront réservés qu'aux transporteurs sanitaires et aux transporteurs taxis. Alors oui, les taxis, on a la capacité de s'adapter, de s'organiser pour éventuellement répondre aux appels d'offres. Mais la question principale, à quel prix? Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous avez d'un côté les transporteurs sanitaires qui proposent aux appels d'offres à un prix tel qu'il est actuellement dans le transport assis professionnalisé. Pardon. Là, vous allez travailler concrètement, si je vous cite un exemple, 100 km de distance. En moyenne, vous êtes à 97 centimes du kilomètre environ sur le tarif véhicule sanitaire léger. Si nous devons nous grouper, travailler, organiser des groupements pour aller chercher cet appel d'offres, à quel prix allons-nous descendre pour obtenir cet appel d'offres? Parce que je vous le rappelle, au jour d'aujourd'hui, dans le sanitaire, dans les véhicules sanitaires légers, pardon, excusez-moi, je suis malade, si vous faites un aller simple et un retour à vide, eh bien là, vous allez travailler à 43 centimes du kilomètre. Êtes-vous capable, vous, chef d'entreprise, de travailler, de rendre pérenne votre entreprise à ce prix? J'en doute. Et nous en sommes convaincus que vous n'y arriverez pas. Voilà pourquoi nous vous avons demandé de descendre de la rue. Nous avons rejeté communautairement cette proposition parce que, effectivement, du point de vue gouvernemental, c'était bien joué. Une commission fait voter un article 44 dans la loi de financement de la sécurité sociale. On nous amène... Excusez-moi.
Reprenez, voilà. Ça va aller mieux.
On nous amène... Excusez-moi, je suis fier. On nous amène donc devant un point. On nous dit, voilà, vous avez manifesté, mais on va vous donner la possibilité de négocier le décret d'application. Ah, c'est très rusé. Parce que c'est nous, organismes professionnels, qui aurions été obligés de désigner les secteurs qui auraient servi d'essai pour une expérimentation sur 3 ans. Évidemment, on aurait peut-être favorisé des secteurs qui auraient été les moins sensibles. Si cette expérimentation avait été un succès, on aurait généralisé le total à toute la France. Donc vous comprenez l'objet de notre rejet et le danger. Et moi, je vais plus loin. Je dis que ce n'est pas 5 000, 15 000, mais c'est 30 000 emplois qui seraient menacés à moyen terme. Voilà pourquoi il nous faut rejeter cet appel d'offres. Par contre, nous l'avons dit clairement auprès du directeur de la Sécurité sociale, Madame Martré était dans la salle, nous sommes prêts à discuter, à faire des propositions, nous en avons fait, pour faire évoluer et s'adapter à la réalité économique de la Sécurité sociale. Ça, très clairement, et nous en sommes tous conscients. Maintenant, pas au détriment de nos entreprises, il faut que nos entreprises puissent rester pérennes, puissent obtenir un coût au kilomètre du transport qui puisse nous assurer notre avenir à moyen terme et à long terme. C'est ça l'important.
Oui. Merci Monsieur Gavet pour ces précisions. On rentre vraiment dans le cœur du sujet. Je vais passer la parole à la dernière fédération ici présente, donc Monsieur Ogrel, président de la Fédération nationale des taxis, et ensuite j'inviterai Madame Martrin à s'exprimer. Monsieur Ogrel.
Donc mes collègues ont à peu près résumé l'ensemble de la situation, mais il y a aussi un petit problème qui subsiste, et qu'aujourd'hui, tous pour des constats d'économie, on y est frais à bafouer un des articles fondamentaux de l'égalité de tous. C'est le libre choix du parcours dans le libre choix du patient dans son parcours de soins. Donc au-delà de du combat que mènent les taxis pour leur profession, c'est le combat de tous les Français que nous menons. Parce que si demain on nous impose des transports qu'on n'a plus le droit de choisir, qu'on est obligé de... Enfin, ça ne peut pas... Je pense que ce sont des règles de démocratie qui sont bafouées. Si on laisse faire ça dès le départ, où que c'est qu'on finira? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Merci, monsieur Audrey. Alors, avant de passer la parole à madame Martrin, déjà, je voudrais la remercier parce que ça marque tout à fait son intérêt, quelque part. Nous sommes très heureux de l'accueillir ici. Monsieur Guenou m'a demandé une petite précision, donc je lui repasse très rapidement la parole. Il a oublié de préciser quelque chose.
Voilà, je vous remercie. On en a parlé là et on a oublié surtout un truc très très important. C'est qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale veut, dit-elle, faire des économies dans le budget de transport, mais n'oublions pas quand même une chose, bon, j'étais pas déjà taxi à cette époque, je suis arrivé juste après, en 98, c'est la Sécurité sociale qui est venue chercher la profession pour transporter les malades et pour qu'ils aient un moindre coût dans les hôpitaux. Voilà.
D'accord.
Alors, Madame Martré, on a donc une position tout à fait claire, une position unanime de l'ensemble des représentants de la profession de taxi, donc qui rejette totalement la problématique de l'appel d'offres pour des raisons qui ont été exposées et qui sont tout à fait claires. En même temps, vous avez en face de nous des gens qui sont prêts, j'ai entendu à plusieurs reprises, à faire des propositions, qui ont, des idées à proposer. Et donc, je vous suggère d'intervenir et de répondre un petit peu et de voir comment vous vous situez par rapport à ces interrogations et à ces propositions.
Bonjour à tous. J'espère que le micro marche bien parce que j'ai une petite voix et il y a de l'écho. Donc, bonjour à tous. D'abord, première chose, je suis très contente d'être ici. C'est pas du tout une formule. C'est vraiment important que l'assurance maladie et les taxis se rencontrent aujourd'hui. J'ai réfléchi, bien évidemment, avant de venir ici, et je me rends compte qu'on se connaît pas bien, même pas beaucoup. Ça fait seulement 3 ans que je m'occupe des transports à la Caisse nationale, donc... D'abord, quelques mots pour dire qui je suis. Je suis juriste de formation. Ça fait 20 ans que je travaille à la Caisse nationale d'assurance maladie et que je m'occupe des relations conventionnelles avec les professions de santé. Et donc, ça fait 3 ans que je m'occupe des transports. Et quand je suis arrivée dans le secteur, j'ai constaté une particularité, c'est que nous avons une convention, nous sommes liés par un modèle type de convention nationale qui est décliné au niveau local, et nous n'avons pas d'instance nationale de concertation. C'est-à-dire que nous avons un paysage très particulier, c'est que nous ne pouvons pas avoir l'occasion de nous rencontrer au niveau national parce que nous n'avons pas de commission nationale. Vous travaillez avec les caisses primaires, donc vous avez repéré que la Caisse nationale est la tête de réseau des caisses primaires nationales, donc en quelque sorte elle fédère ces caisses primaires, donc vous avez des contacts avec la caisse primaire, mais vous n'avez pas de contact avec la caisse nationale. Ensuite, j'ai trouvé que c'était effectivement étonnant qu'on ne se connaisse pas bien, parce que votre chiffre d'affaires, pour la plupart d'entre vous, représente 80% de votre chiffre d'affaires est constitué de transport de malades. Donc ça veut dire que vos relations avec l'assurance maladie sont déterminantes dans la vie de tous les jours. Ensuite, nous avons parlé dépenses. L'assurance maladie est dans une situation financière difficile, comme vous le savez. Et vous avez une augmentation, pour nous en tout cas, de notre point de vue. Vous avez une augmentation qui est une augmentation en volume et en prix proche d'une augmentation à 2 chiffres. Ce qui est pour nous, un sujet de préoccupation dans la mesure où vous savez que notre ONDAM est de plus en plus réduit et qu'en 2010, il était de 2%, un peu plus de 2%. Et donc, cette contrainte financière qu'on connaît, que vous partagez parce que vous êtes aussi cotisant, vous aussi, il faut bien évidemment qu'on en tienne compte. Ensuite, et je suis complètement d'accord avec vous, vous êtes un vecteur très très important de notre politique d'encadrement des dépenses d'assurance maladie, puisque vous avez effectivement, et je l'ai entendu et c'est très important, vous contribuez à la politique de restriction des dépenses hospitalières. Et effectivement, nous sommes venus vous chercher pour rendre un service aux malades et aux assurés. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, il y a une contrainte financière et moi, je considère que cet article 44, alors une précision, cet article 44 est une loi qui a été votée et donc je ne suis pas là pour vous en parler en tant que tel. Je suis là pour vous dire, et moi, quand j'ai vu la promulgation de la loi, parce que bien évidemment la CNAM participe à l'élaboration du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on y participe. Quand moi, dans mon bureau, j'ai lu le projet d'article 44, moi je l'ai compris comme un coup de tonnerre, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a des contraintes financières, il y a une évolution des dépenses et les transports font partie des dépenses de l'assurance maladie et on cherche à encadrer les dépenses à tous les stades des prestations. Donc les transports en font partie. Il faut prendre en compte cette contrainte. Maintenant, il faut aussi qu'on prenne en considération vos contraintes à vous, hein, compte tenu encore une fois de l'importance de votre chiffre d'affaires. Et donc cet article 44, moi je l'ai vécu comme un coup de tonnerre pour votre profession, pour une façon de dire attention, il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, la solution pour moi, bien évidemment, c'est la convention nationale. Vous avez une convention qui arrive à échéance en 2013, elle a 5 ans, il faut qu'on en discute, il faut effectivement, et je l'ai noté, que vous nous fassiez des propositions. C'est-à-dire qu'on a la volonté très claire d'entrer dans une phase de concertation avec vous, il faut qu'on voit vos fédérations, il faut qu'on lise leurs propositions. J'ai d'ailleurs le document qui était mis sur Internet avec un certain nombre de propositions à faire. Il faut absolument qu'on se voit. Il y a aussi, il me semble, des originalités dans votre profession dont il faut que je vous parle. Par exemple, moi, j'étais très étonnée de constater que ce n'est pas l'assurance maladie qui fixe vos tarifs. Vos tarifs sont fixés par le ministère de l'Intérieur, et ce sont des tarifs qui se déclinent au niveau préfectoral, si je ne me trompe pas. J'ai constaté aussi, et ça il faut prendre en considération bien évidemment l'environnement juridique et financier de votre profession. J'ai constaté aussi qu'il y a une augmentation annuelle qui se fait régulièrement sans que nous on soit consultés sur cette augmentation. Et ça c'est une contrainte qu'on prend en compte aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté donc qu'on ne se voyait pas au niveau national, que c'était décliné au niveau local. J'ai compris aussi le taximètre. C'est très intéressant pour moi le taximètre. C'est une boîte noire et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. On ne sait pas tout. Ça aussi c'est intéressant. Ça fait partie des choses dont il faut qu'on discute. Bien évidemment dans la sphère législative et réglementaire qui est la nôtre. Mais voyez que nous, on a des contraintes d'encadrement des dépenses. Vous avez vos propres contraintes. Maintenant, je voudrais terminer par là pour ouvrir la parole à la discussion, la part à la discussion. Je sais aussi que vous transportez des malades très lourds, que vous avez une relation avec les malades qui est très très importante. Il faut parler de qualité des prestations, il faut parler de l'offre des taxis. Vous avez le droit de vous exprimer dans cette sphère de prestataire de soins. Vous êtes des acteurs à part entière encore une fois, et donc je pense que nous pouvons tout à fait faire des propositions qui prendront en compte vos contraintes et les nôtres. Je vous remercie.
C'est très très bien, Madame Martret. Donc, si je vous résume rapidement, vous la CNAMTS que vous représentez, et donc, a la possibilité d'ouvrir, d'accepter des propositions, de pousser à la roue, si j'ose dire, pour qu'il y ait une représentation et une concertation au niveau national. Par rapport à ça, messieurs les représentants de la profession, comment vous situez-vous? Rapidement, on va recommencer par monsieur Richard, et puis chacun pourra donner son point de vue, comme ça on aura un débat aussi large que possible. Par rapport à ce que vient de dire madame Martret, quelle est la position de votre fédération?
Alors merci madame Martret, vous n'avez pas occulté ni supprimé l'article 44, mais j'ai remarqué que vous aviez mis une très très grande importance sur la prochaine convention nationale. C'est le souhait de la profession. Sauf que nous, on va plus loin, on ne veut pas l'application de l'article 44, mais discuter d'une façon positive la future convention, on est tout à fait partant. Par contre, vous avez dit que dans la petite boîte noire, c'était le mystère. Pour ceux qui sont des professionnels, c'est pas le mystère, hein. Je vous dis tout de suite, ce sont des compteurs plombés et nous ne sommes pas des gens mystérieux. Le tarif qui sort, il est juste et très précis. Je tenais quand même à le dire.
Monsieur Vigneau,
merci. En quelques mots. On m'entend bien?
Oui.
Ben, non, on ne m'entend pas. Si.
Oui, merci.
Donc, comme disait madame, on est effectivement d'accord, c'est ce que nous avons dit tous collégialement à l'unanimité, si je peux préciser, travailler sur la convention nationale qui devrait être négociée en septembre. Nous avons demandé, pourquoi pas, et on nous a répondu oui, de commencer dès maintenant à travailler sur cette convention nationale. Mais on a mis quand même un gros point, on veut une convention nationale non modifiable dans tous les départements, qu'elle soit applicable la même, que ce soit dans un ou l'autre des départements de la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez dit que nous faisons des tarifs préfectoraux, c'est exact, c'est notre réglementation qui l'impose, et vous avez dit également que tous les ans, nous augmentons les tarifs sans vous concerter. Alors, si je peux me permettre de faire un petit rappel, c'est quand même le gouvernement qui fixe l'indice d'augmentation des tarifs, et tous les 5 ans, quand nous faisons notre convention collective, qui était aujourd'hui modifiable dans chaque département, la convention nationale, si je ne me trompe pas, elle dit que nous devons impérativement faire une remise entre 5 et 15%. Moi, mon département, il fait 15%. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On fait déjà une remise par rapport au compteur. Et ben, je vais arrêter là. Je vais laisser la parole à mes collègues.
Merci déjà de nous ouvrir la porte des négociations. Nous espérons que c'est une porte qui va s'ouvrir très très rapidement. Pourquoi attendre la date limite de la fin de l'année pour commencer les négociations? Je pense que avant la fin du mois, le processus pourra être engagé de façon à faire des économies à la CPAE, à la CNAM dès aujourd'hui et non pas attendre, comme par exemple proposait la mise en place de l'article 44, une étape de 18 mois avant de réussir à voir ce que cela pouvait donner. La solution qu'a précisé aussi mon collègue, c'est que la convention soit nationale et plus départementale, parce qu'on trouve des départements qui sont beaucoup plus ouverts à la négociation que d'autres, et on se retrouve avec des taux de remise totalement disparates au niveau de la France. On a des départements qui sont à 5%, des départements à 15%. Alors nous achetons tous le matériel au même prix et nous avons le gasoil qui est pour ainsi dire à quelques centimes près au même prix au niveau national. Nos charges sont les mêmes. Donc la convention doit encadrer les départements de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive sur les départements.
Bien, ce qu'a dit Madame Martret est tout à fait important, mais ça veut dire aussi qu'on doit avoir une stratégie sur deux aspects différents. Même si la CNAM veut aujourd'hui négocier, on est quand même toujours pris au piège par la loi, parce que l'article 44 est dans la loi. Et donc il faut qu'on continue à travailler pour que ce texte-là soit modifié par le Parlement. C'est pour ça que cette semaine j'ai rencontré Christian Paul, qui est le rapporteur à l'Assemblée nationale, et le sénateur Daudini, qui est le rapporteur au Sénat, parce qu'il faut que, dans la loi, l'article 44 soit modifié pour nous permettre de sortir définitivement de ces appels d'offres. Et donc ça, il faut absolument qu'on le fasse très rapidement. Et dès que ce 44 sera sauté, et même avant, on doit naturellement négocier dans le cadre de la Convention nationale. Le 1er septembre, l'UNT a dit, au cours de la journée de négociation, nous étions favorables à un tarif national, à un seul tarif national, et d'ailleurs un tarif qui soit dans le cadre d'une convention unique, et nous avons même indiqué que nous étions favorables à ce qu'il y ait un tarif TAP qui regroupe VSL et taxi, de façon à ce qu'il y ait cette possibilité et que le TAP soit vraiment réservé au VSL et au taxi. Et donc, à partir du moment où on a la modification du 44 et une négociation nationale, au regard de ce qu'a dit Madame Martret, de l'importance du lien avec les patients, du rôle que les taxis jouent, et madame, dans certains départements, c'est pas 80%, hein, c'est 100% du chiffre d'affaires des taxis dans les territoires ruraux qui sont concernés, et que naturellement, pour nous, c'est même pas, je dis à Gérard Gabé, c'est même pas une question de tarif, c'est pas parce qu'on va rouler à 0,43, 0,60 ou 0,70, on est contre les appels d'offres par principe, c'est pas même pas un tarif élevé, hein. L'idée, c'est pas de dire il y aura appel d'offres ou pas appel d'offres. Il faut pas d'appel d'offres. Il faut une négociation nationale dans laquelle il y ait un transport de malades assis qui soit prescrit pour les VSL et les taxis, un tarif qui soit connu. Tous, je crois, ici, autour de la table, on est prêts à vous faire un petit apprentissage de ce qu'il y a à l'intérieur du taximètre. C'est pas une difficulté. Et naturellement, je pense qu'on peut trouver des solutions entre nous pour réussir à joindre à la fois le respect du patient, le respect de nos entreprises et l'objectif qui est celui de la Sécu, d'avoir une maîtrise des coûts en prenant en considération l'économie qu'on fait faire à la Sécu au niveau du transport et l'augmentation qu'on peut produire à cause de la demande des clients qui est de plus en plus nombreuse.
Alors je crois qu'effectivement il faut qu'on travaille sur deux axes directeurs. Le premier, effectivement, l'article 44, il est là. Le législateur l'a voté. Et si on veut le faire supprimer ou le faire modifier, on doit à nouveau repasser par le législateur, ce qui est très complexe et très long. À mon sens, si je ne me trompe pas, le simple fait de ne pas avoir de décret d'application de cet article 44 suffit et permettra de geler cet article 44. Ça, c'est beaucoup plus simple, juridiquement parlant, et c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Ça, c'est le point, à mon avis, sur lequel il faut travailler. Le deuxième point, effectivement, nous verrons, nous, je pense, Fédération Taxi, arriver d'un très bon œil, une commission de concertation nationale, et qui se situerait, par exemple, soit au niveau de l'UNCAM, soit au niveau de la CNAMS. La CNAMS étant majoritaire en nombre d'affiliés. Alors ça serait une deuxième solution qui nous permettrait d'avancer, de travailler ensemble, de pouvoir faire des propositions tarifaires qui puissent satisfaire à la fois nos entreprises, respecter la qualité du service, parce que au jour d'aujourd'hui, vous le savez, on aurait été obligé, pour diminuer les prix, de modifier cette qualité du service en groupant le transport de personnes pour arriver, pour les mettre dans une structure, les amener dans une structure de soins où ils auraient patienté toute la journée, etc. J'ai évoqué ce sujet, je vais pas, lors de la réunion avec le directeur de la Sécurité sociale, je vais pas évoluer là-dessus, ça serait un peu trop long, mais voilà, j'ai résumé les deux axes. On peut facilement, je pense que facilement, le mot est un peu fort, mais je pense qu'on peut faire évoluer cette situation en n'ayant pas cette parution du décret d'application concernant l'article 44, et d'un autre côté, travailler sur une convention nationale applicable par toutes les caisses d'assurance maladie. Et ça serait très important, et on a des solutions, on vous en a évoqué quelques-unes, et on pourrait discuter directement, parce qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de dialogue entre l'UNCAM, la CNAM-TS, et les organisations professionnelles, et au-delà, par-delà, les taxis dans la rue qui transportent chaque jour nombre de patients. Voilà.
Alors, lors de cette intervention, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Il y a quand même une chose qui m'a choqué. Moi, je suis en face de vous. Je revendique mon métier, je suis taxi. Je suis mobile à compteur euro-kilométrique. Depuis 2008, nous avons pris tout un tas de contraintes sur le nez. Quelle qu'elle soit, on nous oblige d'acheter des nouveaux matériels, on nous a collé des contraintes, on nous a ouvert à la concurrence déloyale. Et aujourd'hui, j'entends parler d'un tarif unique taxi et vaisselle. Moi, je revendique mon métier. Je suis taxi, j'ai un taximètre. Je dois travailler avec les attributs qu'on m'oblige à acheter pour travailler. Je ne veux pas entendre parler de tarif unique.
Alors, cela étant précisé, merci à chacun d'avoir donné son avis, d'avoir fait des propositions. Je vais retourner vers Mme Martin, parce que finalement, sur une situation bloquée, quand on est dans une situation bloquée, certes, on peut avoir des moyens de pression, descendre dans la rue, comme vous l'avez fait, pour faire prendre conscience un petit peu de la gravité de la situation et des problèmes que vous rencontrez. Mais en même temps, il faut essayer de trouver des voies de sortie d'un conflit. Et là, j'en entends de la part de l'ensemble des représentants qui disent on pourrait éventuellement supprimer l'article 44 en le modifiant, le geler, faire en sorte qu'il ne produise jamais ses effets, c'est déjà arrivé dans d'autres sujets, et en même temps, une demande qui me paraît vraiment frappée au coin du bon sens, de dire,
pourquoi attendre pour commencer les discussions dans le cadre de la convention nationale, la négociation de la convention nationale. Donc, au niveau de la CNAMTS, est-ce que vous êtes prête? Enfin, vous êtes prête pas en tant que personne, bien évidemment. Intellectuellement, je suis sûr que vous l'êtes. Mais est-ce que vous avez le pouvoir de répondre positivement, de répondre donc positivement à cette proposition qui est tout à fait intéressante et qui permettrait d'évoluer et de résoudre une partie du problème?
Oui, donc la réponse est oui pour répondre à monsieur, mais je pense que c'est le souhait de tout le monde. On va très rapidement organiser des réunions de concertation entre la CNAM et les fédérations. La directrice de l'organisation des soins à la CNAM a annoncé un calendrier qui est février-mars. Donc vous voyez, on est bientôt à la mi-février. C'est un calendrier très contraint et qui correspond bien à l'attente, me semble-t-il, des taxis et au contexte qui est, encore une fois, de montrer que les taxis peuvent agir avec l'assurance maladie pour répondre aux contraintes financières qui sont les nôtres.
Écoutez, donc il n'y a plus qu'à régler les agendas et au sortir de cette réunion, vous pourriez commencer déjà à travailler là-dessus. Je vais passer la parole, alors je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne doute pas que ce soit intéressant, je m'arrête d'être très bref, à quelqu'un qui représente également la Caisse primaire d'assurance maladie, M. Claude Périès, qui est vice-président du conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et qui, en même temps, a l'avantage d'être un ancien taxi parisien.
Bon. Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente Claude Périès, artisan taxi parisien depuis 27 ans. Je suis à la retraite depuis 2009 et je suis élu à la Caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne de Créteil depuis 11 ans. Donc, je suis le premier vice-président, ça fait ma troisième mandature. Donc, je suis aussi très impliqué parce que je suis aussi aux commissions de recours amiable des usagers. Ça fait 10 ans que, madame, que je suis aux commissions de recours. Et là, vous avez demandé, moi je vais parler pour les taxis parisiens, depuis 2009, vous avez demandé aux taxis parisiens de leur aide pour faire des économies. Vous saviez les tarifs que nous avions. Les taxis parisiens sont moins chers que les taxis communaux de notre même département. Donc déjà, la flotte parisienne est moins chère que les taxis communaux qui sont dans le 93, 92 et 94. Nous, depuis 2009, nous avions sur 50 plaintes d'usagers, nous avions 60% qui étaient par rapport aux taxis conventionnés. Au bout de 4 ans, on a divisé par 3, on est à 10% de gens qui commencent à arriver à plier les taxis parisiens conventionnés, parce qu'il faut dire une chose, la Caisse ne s'est jamais beaucoup tracassée pour savoir comment on trouvait un taxi conventionné. Sortez de l'hôpital, vous allez voir le problème que nous avons en sortie d'hôpital. Il y a les centrales radio qui sont là pour ça, on les a pas utilisées. Maintenant, on va nous dire au bout de 4 ans qu'on va faire des appels d'offres. Mais je trouve ça inadmissible. Quand vous êtes sur le terrain, comme moi je le suis, il faut quand même, et les concertations aussi, il n'y en a pas. Nous, les départements limitrophes, on n'a pas de concertation avec la CNAM. Je suis aussi aux ARS. Je suis donc, après-demain, il y a la réunion des présidents à la Caisse nationale. Vous avez la concertation, vous l'avez toujours évincée. Donc là, je suis là pour donner un coup de gueule, aider les taxis et les usagers.
Voilà. C'est tout à fait l'intérêt de ce type de réunion, c'est que bon, on peut s'exprimer, et là, vous avez un coup de gueule, comme a dit monsieur, pour reprendre. Madame Martrey, voulez-vous répondre ou non? Enfin, vous êtes d'accord? Bon, bah, écoutez. Donc,
je propose qu'on se voit, je ne peux être que d'accord avec ce que vient de dire monsieur.
Très bien. Avant de passer à la partie, comment dirais-je, un petit peu plus pratique et qui vous intéresse, je n'en doute pas, est-ce que, messieurs, vous souhaiteriez peut-être apporter des compléments à ce qui vient d'être dit? Je crois qu'on a, comment dirais-je, balayé un petit peu la problématique actuelle, à savoir l'appel d'offres, c'est ce fameux article 44 qui est un facteur bloquant, et puis d'autre part, a priori, une excellente bonne volonté de la part de la CNAMTS pour engager très rapidement des négociations, des discussions sur la convention nationale, de façon à ce qu'elle aboutisse d'ici la fin de l'année. Dans ce cadre-là, est-ce que vous auriez des éléments complémentaires à rajouter, ou bien est-ce que nous pouvons passer à une présentation un petit peu plus didactique et pratique, mais qui, je n'en doute pas, vous intéresse et va intéresser l'ensemble des participants à cette conférence.
On peut. Que la profession est disponible, les représentants de la profession sont disponibles n'importe quel jour, n'importe quel moment.
Voilà. Alors, je rajoute donc à la demande de M. Richard, et je suppose à la demande de tout le monde, de tous les représentants de fédération, que les fédérations, donc de taxis, sont disponibles à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, ce qui fait partie, bien évidemment, du sens du service qui caractérise leur métier. Voilà. Monsieur Ogrel, une petite précision également.
Oui, j'aurais juste apporter une petite précision quand on a su aborder la tarification. Il ne faut pas dire que les taxis parisiens sont moins chers que les taxis communaux, monsieur. Il faut dire que les taxis parisiens et les taxis communaux ont deux systèmes de tarification qui sont différents. De là à dire qu'ils sont moins chers, il y a un fossé qu'il ne faut pas franchir. Nous sommes soumis à deux systèmes de tarification différents, donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, monsieur. C'est tout ce que j'avais à dire sur la tarification.
Je vais demander à Madame Dr Marie Zidvar de nous présenter, donc de faire une présentation synthétique et rapide. Je suis désolé, nous sommes dans une contrainte de temps. Donc du système de ce qu'on appelle le projet transport, PEC+, dont certains d'entre vous ont dû entendre parler. Et ensuite, s'il nous reste un petit peu de temps, mais je pense qu'il en restera, eh bien on passera la parole à la salle. Et si vous avez des questions, vous pourrez à ce moment-là les poser. À la fois aux représentants de la CNAM, mais bien évidemment aux représentants de vos différentes fédérations. Donc je passe la parole au docteur Marvin Zidvar.
Bonjour à tous. De mon côté, je suis très heureuse aussi d'être parmi vous et d'avoir pu assister à cette conférence parce que ça me permet de encore mieux comprendre les difficultés de chacun. Et surtout les attentes, puisque le projet transport dont je m'occupe, hein, il est vraiment pour répondre aux attentes et aux difficultés que vous rencontrez au quotidien aujourd'hui. Donc c'est un projet qui est relativement neuf, hein, qui a été organisé par la CNAM il y a maintenant à peu près un an et demi. On a commencé, on a beaucoup d'ambition, je ne vous le cache pas, on espère qu'on y arrivera, mais avec vous, parce que tout seul, ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer des solutions techniques qui ne répondent pas à vos attentes. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement, puisque j'ai compris que le timing était serré, le projet transport. Alors comment on a travaillé? On a commencé d'abord à réfléchir par rapport aux différentes prestations de transport, quelles étaient les difficultés que vous rencontriez aujourd'hui. Donc parmi ces difficultés, très clairement, vous avez le plus souvent un certain nombre de rejets que vous constatez sur vos factures. Alors les chiffres sont assez globalement homogènes, autour de 8 à 10% sur l'ensemble des factures de transport. Donc peut-être que certains d'entre vous en ont moins, mais globalement c'est ça sur la France entière. Alors par rapport à ça, le projet transport, il a comme vocation de dématérialiser, de vous offrir des services, et de vous mettre à disposition des informations qui sont issues de nos référentiels. Donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir avoir des facturations qui seront plus fiables et beaucoup plus de simplification également administrative. On a bien sûr noté les difficultés autour des prescriptions. Vous êtes souvent confrontés à des prescriptions qui sont soit illisibles, soit absentes, ou qui sont faites a posteriori dans certains cas, et ensuite il faut que vous vous débrouillez avec ça pour pouvoir vous faire rembourser. Donc ça c'est un point aussi important, et dans le projet transport, on a l'ambition de proposer une dématérialisation de la prescription électronique. Et puis on a aussi, sur la charge administrative que vous rencontrez aujourd'hui, l'intention de dématérialiser toutes les pièces justificatives globalement et à terme de vous proposer un ensemble de services qui vous permettra, vous allez voir, de pouvoir espérer faire du zéro papier entre vous et l'assurance maladie. Donc à la fois avec une prescription électronique et une facturation en ligne, on vous met à disposition dans vos logiciels métiers les informations dont vous avez besoin pour faire vos factures. Et puis, à partir de là, on vous permet également de, quand il reste des pièces papier, puisque évidemment tout ce projet ne se fait pas en un jour, vous vous en doutez bien, on a quand même l'espoir de pouvoir vous dématérialiser toutes les pièces justificatives dont l'assurance maladie vous demande aujourd'hui de les envoyer souvent de manière désynchronisée. Donc la grande différence par rapport à aujourd'hui, vous faites votre facture sur la base des informations dont vous disposez, que vous récupérez un peu à droite et à gauche auprès de vos patients, auprès des prescripteurs, auprès des établissements, et ensuite que vous essayez de porter à la caisse primaire avec la facture. Tout ça, c'est désynchronisé, tout ça, ça pose des difficultés concrètes au quotidien, et c'est dans cette démarche-là qu'on s'est inscrit. Alors, en cible, le projet transport, il doit couvrir toutes les prestations de transport, toutes les prescriptions, qu'elles soient faites en ville ou à l'hôpital, toutes les situations d'exercice, évidemment la possibilité d'avoir des services qui sont intégrés dans les logiciels de tous, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est pas sur un portail de l'assurance maladie qu'il faut que vous alliez chercher vos informations, il faut que ce soit directement au cœur de votre système métier. Et puis on a pour cette démarche, on a en fait une organisation progressive et on va pouvoir vous donner quelques détails sur le premier service qu'on vous propose dans les prochains mois, qu'on va expérimenter donc avec la profession taxi, qui s'appelle Tech Plus. À côté de ça, on a une expérimentation en attente sur la prescription électronique de transport, en attente de la décision CNIL, ça veut dire qu'elle est prête, elle est sur étagère, malheureusement, on attend l'autorisation de la CNIL pour démarrer, depuis le mois d'octobre. Et à côté de ça, donc, le PEC Plus avec vous, on a commencé avec les transporteurs sanitaires, donc en fin 2011, on a généralisé à partir de mai-juin 2012, et maintenant on a un retour sur le service qu'on peut vous proposer. On a évidemment essuyé quelques plâtres, c'était évident, sur un service comme ça, mais aujourd'hui on a vraiment un retour sur investissement pour les transporteurs qu'on souhaite vous mettre à disposition. Alors, qu'est-ce que c'est Service PEC Plus ? Donc, c'est un téléservice de consultation de la prise en charge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir des informations dont vous disposez que l'assuré vous a mis à votre disposition, la prescription, le lourd de l'assuré, vous allez pouvoir interroger à la date de réalisation du transport les services de l'assurance maladie avec un simple clic dans votre logiciel et le service va vous répondre quel est le taux d'exonération de l'assurance, quel est le taux de prise en charge, pardon, quelles sont les exonérations qui sont attendues par l'assurance maladie, est-ce qu'il y a du tiers payant réglementaire, est-ce qu'il y a une situation de CNUC par exemple, et tout ça va vous être envoyé. Donc c'est très simple, ça répond vite, en moins d'une seconde vous avez l'information à partir du moment où vous interrogez le service. Alors par rapport à ça, ce qui est intéressant c'est que c'est directement intégrable dans vos factures. Et à partir de là, on a obtenu des informations en termes de diminution de taux de rejet qui sont très significatives. Alors le schéma que vous voyez apparaître tout en haut, ce sont des chiffres qui sont consolidés au niveau national, donc qui regroupent l'activité de facturation d'à peu près 2000 transporteurs sanitaires. Et donc on a un retour avec une diminution très significative. La courbe rouge, ce sont les transporteurs qui n'utilisent pas le service. La courbe bleue, ce sont les transporteurs qui utilisent le service. Donc sur toute la partie contexte patient, donc qui correspond à peu près à 50% de vos rejets aujourd'hui, on arrive à une diminution de l'ordre de 45% des rejets que vous aviez par rapport à la période initiale de novembre 2011 pour nous. Donc, ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de démarrer maintenant, dans le cadre d'une pré-série, la mise à disposition de ce même service, donc assez vite, c'est-à-dire au deuxième trimestre 2013. On a déjà un certain nombre d'éditeurs qui sont prêts à démarrer, on a des éditeurs qui sont mixtes, donc qui ont déjà implémenté la solution dans leur logiciel, donc pour eux, c'est très facile à faire, donc on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça, et on se propose d'organiser donc avec les représentants de la profession une pré-série pendant une durée d'à peu près 3 mois. Évidemment, la pré-série, elle ne sera pas généralisée comme ça. On fera un bilan avec les représentants de la profession, avec les éditeurs, avec le terrain, et c'est uniquement grâce à ça qu'on pourra décider ensemble de faire une généralisation. Mais par rapport à ce premier service, c'est une première brique de dématérialisation et on a voulu construire le projet transport comme ça, c'est-à-dire vraiment brique après brique, pas tout faire d'un coup, pas tout faire bien du premier coup, mais progressivement enrichir l'ensemble de l'offre de service. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Merci beaucoup, madame. Je repasse la parole à madame Claire Martret et ensuite je viendrai vers vous, je n'ai pas oublié.
Oui, je voulais ajouter un mot par rapport à l'offre de service sur laquelle travaille Catherine. Bien évidemment, ce dispositif sera intégré à la Convention nationale des taxis. Ça fait partie de l'ensemble des services que nous offrons, nous, Caisse nationale, à l'ensemble des professionnels de santé. Nous avons un bouquet, comme on dit, c'est très joli, hein, c'est ça qu'on dit, un bouquet de services qu'on offre aux professionnels de santé. Et cette offre de service sera bien évidemment intégrée à la Convention nationale.
Et ça répond, me semble-t-il, à une demande, une des demandes de l'ensemble des fédérations. Donc déjà, un point positif, et nous espérons tous qu'il y en aura d'autres. Donc tout à l'heure, l'un de vos représentants, plusieurs de vos représentants ont manifesté le désir qu'il y ait des remontées de la base, au bon sens du terme. Donc si d'aventure, quelques-uns d'entre vous avaient des questions à formuler, quelques remarques, mais en étant très bref, hein, parce que il faut que tout le monde puisse s'exprimer, je passe parmi vous, je vous donne la parole à monsieur au fond, je vais remonter après en sens inverse. Donc, vous vous présentez, vous posez votre question, vous apportez votre remarque, mais de façon très synthétique.
Bonjour à tous, Pierre Cuny, conducteur de taxi depuis presque 25 ans. Je suis persuadé, moi, de la légitimité du taxi comme acteur de transport de la Dacy, puisque j'ai, à l'époque où elle a été proposée dans mon département, à savoir en 92, été dans les premiers à signer la convention 74 de transport de la Dacy, qui était une convention de tiers payant à l'époque. À l'époque, mes collègues, 90% d'entre eux, d'ailleurs, ne voyaient pas tellement l'intérêt de ce type de travail pour les artisans taxis que nous sommes, que nous étions. À l'heure actuelle, il n'y a plus besoin de convaincre, bien entendu, personne. À l'époque, il y avait 3 fédérations nationales de taxi. Il y en a 5 aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. On pourrait penser que la profession est mieux représentée auprès des pouvoirs publics. Moi, ce que je souhaite et ce que je demande solennellement à chacun des présidents de fédération ou représentants de fédération ici présents, c'est d'aller dans le même sens auprès de la CNAM pour discuter d'une solution qui sera pérenne et qui existera. Et qu'il n'y ait pas de division du fait de l'existence de peut-être beaucoup de fédérations, je ne dis pas trop, mais beaucoup, et que cette division qui pourrait exister nuise à la profession qui a besoin du transport de la Dacy, et qu'on ne soit pas trompé par nos représentants de fédérations qui agiraient pour leur fédération plutôt que pour les artisans qu'ils représentent sur le terrain. Voilà.
Est-ce que vous voulez, certains d'entre vous veulent répondre ou bon, je veux dire, Monsieur Guénou.
Oui, vous m'entendez?
Oui, c'est bien.
Il parle d'union. Ben, je crois qu'on l'a bien démontré le 1er février. Hein, l'article 44, il y a un président ici de cette table. Mais comme on parle au nom de l'union, on n'est pas là pour dire qui l'a dit ou qui l'a pas fait. Mais il y a eu une demande de suspension de séance qui a été demandée. Nous l'avons tous accepté, nous nous sommes tous levés. Dans le couloir, nous avons tous tenu le même discours, hein, c'est-à-dire de ne rien négocier, de ne rien dire, de ne même pas répondre sur l'appel d'offres. Et quand nous sommes rentrés, il n'y a qu'une seule personne qui a parlé, personne ne lui a coupé la parole, et nous avons bien soutenu ce qu'il a dit, non à l'article 44, et c'était toutes les fédérations qui parlaient au nom de cette personne qui parlait, y compris les taxis parisiens, bien entendu.
J'ai une question dans le fond, et après je remonte. Monsieur, soyez prêts.
Bonjour, Eddy Maillot, je suis taxi dans le Var, et j'ai quelques idées à proposer, que j'ai d'ailleurs proposées aux différents présidents ici présents. Je considère peut-être que la TVA qui s'applique aux transports médicaux ne devrait pas l'être, parce qu'elle impute le budget de la sécurité sociale. Donc pourquoi elle ne s'applique pas au transport sanitaire et elle s'applique au taxi, c'est déjà une anomalie en soi. Donc il y aurait au moins 5-7% de TVA à récupérer pour la sécurité sociale. Ça c'est le premier point. Bon, ça dépend peut-être pas de vous, mais je crois que c'est important de le signaler. La deuxième chose, ça concerne l'organisation des sorties des transports des hôpitaux. Pour l'instant, ça privilégie essentiellement les ambulanciers, puisqu'il faut savoir que quand, l'application du décret de mars 2011, qui donne un peu de confusion sur les prescriptions de transport, que les médecins n'assument pas toujours, on s'aperçoit que quand un patient ne peut pas rentrer chez lui, le médecin, par facilité, le médecin interne, va prescrire une ambulance plutôt qu'un VSL ou plutôt qu'un taxi. Si l'ambulancier n'a pas de VSL disponible, il va proposer de prendre le transport en ambulance qui est automatiquement pris en charge par la Sécurité sociale, alors que le taxi ou le VSL ne l'est pas. Donc là aussi, c'est une deuxième anomalie auquel la CNAM devrait remédier. Sinon, on peut dire que les transports peuvent augmenter par ce jeu subtil qui malheureusement nous échappe. Le troisième point, ça concerne donc l'organisation des sorties d'hôpitaux par les régulateurs que nous aimerions voir mis en place pour qu'il y ait un traitement équitable entre les taxis et les ambulanciers. Que le régulateur ne soit pas automatiquement obligé d'appeler un ambulancier, mais qu'il puisse aussi appeler un numéro commun avec les nouvelles technologies. C'est tout à fait possible de mettre les taxis sur le même pied d'équité que les ambulanciers si le régulateur sait que tel service a besoin d'un taxi, plutôt un transport assis, plutôt qu'un transport couché. Voilà, ce sont les trois points que je voulais mettre.
Merci beaucoup, monsieur, pour cette réaction. Monsieur Gabert.
Alors, je voudrais répondre à Eddy. Au point de vue gestion, la TVA, c'est donnant-donnant. Donc si à ce jour nous collectons 7% de TVA sur les transports assis professionnalisés, cela nous permet de déduire 19,6% de TVA sur le carburant, les véhicules, l'entretien des véhicules, les pneumatiques, etc., etc. Une majorité de nos charges. Faites le calcul. Pas de commentaire.
Bien. Bon, il reste les deux autres points qui ne sont pas inintéressants, monsieur.
Donc, Gilles Boulin, je suis représentant des sociétés coopératives, Alpha Taxi. Madame, s'il vous plaît, pourquoi ne peut-on pas déjà se servir de PEC dans les voitures? Vous nous demandez de venir devant notre ordinateur. Oui, ça parle. Oui, PEC Plus. Pourquoi, dans nos voitures, ne pourrons-nous pas, avec les appareils que nous avons aujourd'hui, interroger directement les systèmes qui pouvons nous répondre et vous nous demandez de venir dans votre ordinateur pour avoir la réponse. Dans la voiture, on peut l'avoir. Pourquoi ne pas ça?
En deux temps, on a demandé.
Alors, Madame Morvan-Sigvar va vous répondre, j'en doute pas.
Vous avez parfaitement raison. La cible, c'est dans la voiture et encore plus pour votre profession, ça va de soi. Par contre, pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé par démarrage, on a fait des briques et on a commencé en fonction des solutions techniques qu'on avait à notre disposition puisqu'on interroge un téléservice de l'assurance maladie, donc il faut une liaison haut débit. Il y a un certain nombre de contraintes technologiques qui sont en train de se lever aujourd'hui et évidemment qu'il faut que ce soit disponible dans les voitures, je suis d'accord. Et on y travaillera.
Merci. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit là, sur le dernier sujet. N'oublions pas quand même qu'un bon de transport est une prescription médicale et pour nous taxi c'est un bon de commande. Donc c'est le signataire, le docteur qui doit lui vérifier si la personne a le 100% ou pas. Nous avons un bon de commande, nous avons simplement à l'envoyer pour se faire payer. Donc on n'a pas du tout à interroger si la personne a le 100% ou pas. Voilà.
Merci pour cette précision. Madame, je crois que vous vouliez poser une question.
Non, je ne vais pas poser de questions, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que le monsieur a dit. Alors, dans le taxi, on a un bon de transport, le client est en affection de longue durée ou ne l'est pas, il faut qu'on s'en préoccupe pour être payé, je suis d'accord, à la limite, je suis d'accord. Par contre, les ambulanciers, quand ils ont un bon en ambulance, c'est pas primordial pour eux si le client est en ALD ou ne l'est pas, ils sont toujours payés. Parce que c'est prescrit en couché, alors que le patient ne justifie pas forcément d'être en couché. Il peut très bien voyager en assis. Et ça, c'est une discrimination, je trouve.
Vous voyez, Mme Martin, toutes les sources d'économie que vous avez déjà trouvées, grâce à toutes ces réactions de bon sens, M. Gabet.
Alors, c'est un des points qui a été évoqué devant Mme Martin, le directeur de la Sécurité sociale,
lors de la dernière réunion que nous avons eue, effectivement.
Bien, encore une ou deux questions, et puis ensuite nous allons répondre. Je remonte. Monsieur, après j'en prends deux, et malheureusement je ne pourrais pas prendre, je ne pourrais plus en prendre d'autres.
Merci. Monsieur et Madame Lefranc, artisan taxi dans le département 50. Depuis 25 ans, nous transportons des malades, et avant dans une autre profession, puisque nous étions ambulanciers. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai participé moi-même, dans mon département, à un texte qui était la mise en place des ARS. Je pense que les gens de la CNAM savent de quoi je parle. Les agences régionales de santé, n'est-ce pas, qui sont chez nous, dans nos campagnes, ce sont nos interlocuteurs privilégiés, regroupés dans nos régions. Eh bien, ces ARS, on leur a déjà donné du pouvoir avant qu'il y ait concertation avec nous. Pourquoi est-ce que les ARS ont le droit, dans leur texte déjà, de mettre en place des appels d'offres? Pourquoi les hôpitaux ont aussi cette possibilité? Et pourquoi la CNAB peut le faire aussi à son tour? Ça fait trois interlocuteurs. Monsieur les représentants de notre profession, n'oubliez pas, ces gens-là, ils ont déjà des pouvoirs. On est déjà à la traîne. Moi, ça me fait peur. Et en plus, premier conseil des ministres cette année, on a entendu monsieur, le premier ministre, je ne vais pas dire son nom, n'est-ce pas? Il a dit, l'emploi, faisons tout pour sauver les emplois. Eh bien, moi, j'en ai des employés salariés taxi. J'en ai. Qu'est-ce que j'en fais demain? C'est en plus de toutes les activités artisanales du taxi, ces gens-là aussi vont être à la côte. Ils vont aller au chômage et il faut aussi diminuer les indemnités chômage. Donc nous, c'est vrai, on cotise pas pour le chômage. Alors, on est peut-être un peu la partie à laisser de côté, puisqu'on ne pourra pas y aller, nous, à la caisse de chômage. Mais il y a aussi des gens qui ont des salariés et ces salariés n'auront plus de travail.
Une réaction sur les ARS, monsieur Hollande.
Oui, alors, rassurez-vous, c'est une des principales revendications de la profession, ainsi que la Convention nationale, c'est d'avoir des membres de la profession qui siègent dans toutes les agences régionales de santé. C'est une de nos principales revendications.
Je prends encore deux questions. Monsieur.
Allô, bonjour. Donc, faut savoir, le taxi, le taxi dans sa théorie n'a jamais été un transport auxiliaire de santé. C'est un transport au public, de tout le public. Donc, je vois que on essaye de sélectionner d'une part de la clientèle, en l'occurrence malade. Le taxi ne doit pas déroger à sa vocation réglementaire, c'est-à-dire de transporter tous les publics, qu'ils soient malades ou non, on est soumis à une réglementation tarifaire. Et si cette réglementation tarifaire est fixée par l'administration, c'est qu'on doit répondre à un transport spécifique et une tarification spécifique qui ne rentre pas dans le champ du marché. Parce que le terme marché, ça s'attribue à n'importe quoi, sauf au transport du public. Le public, il n'est pas privé. Nous, on ne doit pas déroger à notre réglementation de transporter n'importe quel public. Malade assis, VSL, ça a été des inventions dans les années 90 par l'actuel ministre de la Santé de l'époque. VSL, bon, c'est une création d'emplois qui a confisqué une part de clientèle au taxi. Parce que malade assis, moi j'en transporte des malades assis et j'ai pas besoin d'être commissionné puisque on transporte des gens qui sortent de chez du cabinet de chez le médecin pour la ramener chez elle et on fait un bon de transport ou un butin et puis c'est tout. Donc dans tout ça, n'essaye-t-on pas de faire des manœuvres pour confisquer une part de la clientèle du taxi pour que l'assurance maladie la livre cette clientèle à des groupements d'investisseurs de transport ou le... voyez, parce que les VSL dans les années 90 ça a fait le même effet, la même conséquence, c'est-à-dire ça a été le fait de confisquer de la clientèle du taxi. Voilà, bon,
une réaction par rapport à cela.
Oui, ben, monsieur vient de résumer ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Nous sommes taxis, nous sommes unis d'équipements spéciaux. Nous tenons à rester dans le cadre légal de notre profession avec notre réglementation. Le transport de malades assis, le transport de malades assis est une des composantes du métier de taxi, mais n'est pas la seule. Alors, pour certains, c'est vrai que c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires, mais ici, c'est le salon du taxi, c'est pas le salon de l'ambulance ou du VSL. Donc, nous sommes taxis, nous avons une réglementation taxi, et je pense que mes collègues autour de la table sont d'accord avec moi. Une tarification spécifique, je pense pas que le taxi la veuille. Voilà.
Très bien. Une dernière question, monsieur.
Oui, bonjour, Serge Gauthier, taxi depuis 10 ans. Je reviens justement à ce que nous disait monsieur Augrel par rapport à ce que disait monsieur Griset. Est-ce que, monsieur Griset, vous ne pensez pas quand même que d'avoir la même tarification pour les VSL et pour les taxis, ça fasse une concurrence déloyale? En deux mots, le VSL, pas besoin de permis taxi, pas besoin d'équipements spéciaux, un véhicule banal et des gens payés au SMIC. Moi, la différence entre un ambulancier qui paye ses VSL à 9,40 €, moi, mes chauffeurs sont payés 12 € de l'heure. Déjà, rien que là, il y a une concurrence déloyale. Donc, je ne sais pas, enfin, quel métier vous faites? Vous faites taxi ou VSL? Voilà, ça c'est de la concurrence déloyale. C'est deux mondes différents. On est taxi, on est OK, on fait du transport de malade assis, mais il n'y a vraiment pas, je ne suis pas d'accord pour avoir un prix taxi égal au VSL. C'est pas possible. C'est deux mondes différents. Relisez le texte, enfin, je ne sais pas, c'est pas possible, quoi.
Monsieur Gabon, monsieur Grisant, ensuite, peut-être pour préciser.
Alors, juste pour être clair, l'ensemble des fédérations qui s'est réunie est pour un tarif taxi avec une remise unique.
C'est difficile là, de faire, on ne peut pas faire le dialogue. Hein. Je suis désolé, vous avez posé une question. Monsieur Grisant, je vous passe, on vous passe le micro.
Bah, il est évident qu'on a un sujet sur la tarification. Vous avez raison que la profession de taxi est réglementée d'une façon qui est particulière. Il y a quand même un sujet sur lequel il faut qu'on regarde et qu'on échange, c'est que beaucoup de nos collègues dans les différents territoires ont des véhicules VSL et des véhicules taxi dans la même entreprise. Et que donc un certain nombre de nos collègues évoquent la difficulté, comme d'ailleurs la CNAM, d'avoir dans la même entreprise des véhicules différents, des tarifications différentes. Donc un des sujets, c'est de regarder comment on peut, dans la réglementation taxi, avoir d'abord sortir de nos conventions locales, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une convention nationale, avec une tarification qui soit adaptée, qui reste départementale pour l'instant. Hein, notre convention, on a bien une tarification départementale. Le problème qui est à régler, c'est de regarder comment on fait lorsqu'une entreprise a à la fois les taxis et les VSL au niveau de la tarification. Voilà, il faut qu'on regarde. Nous avons travaillé sur ce sujet-là. On va ensemble faire des propositions qui aboutiront, je pense, à trouver une solution qui permette au taxi de continuer d'avoir son activité comme il l'a depuis toujours, en tant que taxi, avec son taximètre.
Merci. Monsieur Denis, une réaction?
Oui, je veux rebondir encore une fois sur ce qui s'est dit, à ce que vous avez dit au niveau, et je vais rejoindre Monsieur Augrel, mon président. La tarification unique, on n'en veut pas l'avoir. Pourquoi? Déjà, la première des raisons, c'est que depuis 2008, ce fameux rapport Attali, nous avons refusé. Donc, on s'est fait sortir par la porte, ils rentrent par la fenêtre avec les VTC. Si demain, on met un tarif unique, eh bien, toutes les lotis, tous les VTC feront du médical. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs, dames? Que les VTC et les lotis fassent du médical? Donc, on ne peut pas avoir un tarif unique. On est obligé de rester sur la convention, sur la réglementation du taxi et se servir du compteur euro-kilométrique. Merci.
Bien. Ben, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette conférence. Il me reste à vous remercier et à remercier tous les représentants de votre profession, président de fédération, et également, bien évidemment, et je dirais même au premier chef par rapport au sujet, mesdames Martrey et Morvan-Zigvin de la CNAM. Très bonne continuation de salon. Merci.